Parlons un peu de cannabis. Ça fait déjà 2 ans que le pot a été légalisé au Canada. C'était le 17 octobre 2018. Quelques jours plus tard, le premier ministre Justin Trudeau, dont c'était une des promesses électorales, est allé expliquer là, son affaire. À tout le monde en parle, on s'en souvient.
L'année passée, il y a eu 5 millions de Canadiens qui ont consommé du cannabis. Et ces consommations-là ont été liés aux criminels, aux crimes organisés. Là, les gens, ils sont intéressés de pouvoir acheter un produit sécure, approuvé par Santé Canada et ne pas envoyer de l'argent dans les poches des criminels.
Alors, l'idée de base pour légaliser le pot, c'était vraiment de couper l'herbe sous le pied des criminels du marché noir. Bilan qu'on en fait après 2 ans, c'est que depuis 2018, on dit qu'il y a un consommateur de cannabis sur 3 au Canada qui a délaissé le marché noir et qui s'approvisionne légalement. 1 sur 3, vous allez me dire, ben, c'est mieux que rien, mais c'est peu en comparaison des promesses donc de Justin Trudeau. Ces promesses aussi que la loi légalisant le pot allait changer la donne. En fait, quand on regarde le bilan qu'on en fait après 2 ans, qu'est-ce qu'on se rend compte? Les lobbies du pot sont de plus en plus puissants. Ils ont bien joué leur carte auprès des instances politiques. Ils ont d'ailleurs eu un accès assez facile au ministre de Justin Trudeau. Un exemple assez patent là, des liens qui existent entre le politique et l'industrie de la marijuana. Vous êtes peut-être au courant, c'est que George Smitherman, qui est le président du Conseil canadien du cannabis, c'est aussi un ex-ministre de la Santé dans l'Ontario. Alors, imaginez, si vous cherchez les liens, déjà là, il y en a un. Le Journal de Montréal avait fait, d'ailleurs, un dossier fort intéressant là-dessus le week-end dernier. Un autre constat, c'est que le cannabis, c'est payant, là. C'est vraiment très payant. Et c'est bien les seuls, à part les Costco de ce monde qui ont fait, et les Amazon de ce monde qui, en temps de pandémie, ont fait de l'argent. On parle même d'augmentation de près de 20% cette année au pays, alors qu'on était quand même, si vous regardez le commerce de détail, c'est pas évident. Au Québec, je vous le rappelle, la loi est différente du reste du Canada. Au Québec, pour les jeunes, c'est toujours 21 ans, l'âge légal. Puis, je trouve ça intéressant de reparler de l'âge parce que quand on dit « est-ce qu'on a manqué le coche un peu? » Ici, si t'as pas 21 ans puis que tu veux finir du pot, ben t'es quand même obligé de te tourner vers le marché noir, vers ton pusher. Est-ce qu'on n'est pas dû pour une petite revision de ça? On va en discuter avec nos invités, Hugo Saint-Onge et chef sortant du Bloc Pot. Bonjour Hugo.
Bonjour Isabelle.
Jessica Turmel est psychoéducatrice chargée de projet pour l'Association des intervenants en dépendance du Québec. Elle est spécialiste et chargée de cours en toxicomanie à l'Université de Montréal et l'Université Sherbrooke. Bonjour Jessica.
Bonjour.
Parlons un peu du bilan. Vous en faites quoi, vous, de ce bilan? 2 ans plus tard, Hugo Saint-Onge, qu'est-ce qu'on peut dire?
Bien, on peut dire qu'il y a des nouveaux acteurs dans le marché, hein, parce que la légalisation, là, j'aime le rappeler, c'est 45 nouvelles infractions au code criminel, c'est plusieurs nouvelles infractions au niveau pénal au Québec. C'est aussi la création d'un oligopole qui, eux, ont le privilège de pouvoir produire et vendre du cannabis. Donc, ces gens-là ont pu rentrer et distribuer leur cannabis à travers le Canada. Au Québec, on a choisi le modèle d'un monopole de distribution qui s'appelle la SQDC. Et la SQDC a quand même permis à des gens qui n'avaient pas accès à du cannabis d'avoir accès au cannabis, parce que le marché noir, même s'il y en a beaucoup, même si vos cousins en vendent, mais des fois, la ma tante, elle connaît pas que le cousin en vend. Fait que, tandis qu'à SQDC, c'est quand même un pôle où tout le monde peut y aller. Puis on le voit, là, la clientèle qui y va, c'est un peu tout le monde. Là. C'est madame et monsieur tout le monde, il n'y a pas de cadre de référence. De toute façon, les amateurs de cannabis, c'est tout le monde, hein? C'est un microcosme de la société. Là. T'as autant le médecin que le chômeur là, qui sont amateurs de cannabis.
Ouais, Jessica, là-dessus, est-ce que bon, on va poser la question aux gens. Est-ce que cette loi-là, le fait de légaliser le cannabis thérapeutique pour les 21 ans et plus, est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie des gens qui nous écoutent? J'en profite pour donner nos numéros de téléphone à nouveau, 514-790-9850 pour nous joindre. Et de l'extérieur de Montréal, c'est le 1-866-790-9850. Dites-moi si, entre autres, avec la pandémie, vous avez eu envie de fumer un joint ou deux pour calmer votre anxiété. On sait que ça peut avoir des vertus thérapeutiques du genre. Jessica, est-ce que ça, d'après toi, ça a changé la vie? Ça a changé quelque chose dans la vie peut-être de ceux qui en fumaient pas puis qui se sont mis à l'adopter?
En fait, bon, la catastrophe que beaucoup de gens anticipaient ne s'est pas avérée comme on pensait. Donc, on n'a pas eu là une hausse fulgurante du nombre de consommateurs de problématiques en lien avec ça. C'est ce qu'on s'attendait, en fait. Est-ce qu'il y a une petite hausse qui est normale, une hausse attendue? Surtout dans les premiers mois, premières années, mais en fait, on voit là que la tendance s'est tout de même maintenue là au niveau de la consommation. On parle quand même d'une substance qui est consommée, on parle de près d'une personne sur deux là au Canada qui en a déjà pris dans sa vie. Donc c'était déjà une substance qui était très très présente, très accessible. Par contre, bon, il y a des points positifs et négatifs à la légalisation. De ceux-là, pour faire du pouce comme Hugo, en fait, ça a permis à certaines personnes d'en avoir accès aux besoins, des gens qui n'avaient pas accès au marché noir, je pense aussi au domaine médical. Donc, ça l'a pu aider à ce niveau-là pour des gens qui en avaient besoin. Et ben, ça a permis d'en parler aussi. Ça a permis de passer une étape, enfin, sur une substance qu'on a démonisée pendant des années et de commencer là, à l'approcher d'une nouvelle façon, en fait, étant donné qu'elle était déjà très présente.
Mais on sait qu'au Québec, bon, la loi a été... c'est sûr que la loi a été fédérale, mais les provinces ont été mises en contribution. Au Québec, on l'a senti, ça a été comme une patate chaude, cette affaire-là, parce qu'ils ont dû appliquer la loi. On a débattu de l'âge. Finalement, on a décidé d'imposer un âge légal de 21 ans pour toute personne qui veut consommer du cannabis. Ce qui veut dire que pour les jeunes, c'est encore ton pocheur qui te fournit ou en tout cas, tu es obligé d'aller ailleurs que la SQDC, là, Hugo.
Ou de demander à un ami un peu plus vieux de t'en procurer.
Oui, mais si c'est pour toi, en théorie, c'est illégal de faire ça.
Exact, ça j'allais te dire. Donc, demander à ton ami de faire un acte illégal au Québec, mais au Canada, tu as le droit de donner un 30 grammes à un ami, il n'y a pas d'interdiction, à moins que la province interdit à des 21 ans et moins. Donc oui, exactement, les jeunes sont mal pris, sont pris encore finalement, c'est de la discrimination, je l'avais déjà dit à ton micro, Isabelle, c'est de la discrimination selon l'âge, t'es adulte ou t'es pas adulte, tu peux faire des choix ou tu ne peux pas faire des choix. On a décidé au Québec que c'était 18 ans, le 21 ans ici, c'est à mon avis, c'est une erreur complète là pour les jeunes, ça amène nulle part pour eux. C'est pas vrai que ça les empêche, c'est pas vrai que ça, tu sais, ça fait rien. D'ailleurs, donner des contraventions, ça va pas aider, ça va pas empêcher des gens d'en prendre. Là. Je veux dire, avant, on les menaçait de les amener en cour, puis même des 2 ans moins un jour de prison quand tu possédais quelques grammes, et les gens en consommaient et en achetaient pareil. Fait, pensez-vous vraiment qu'il y a des contraventions, ça va agir? Non, c'est complètement inutile et c'est, à mon avis, là, détestable pour les jeunes. Moi, je le vois vraiment comme discriminatoire envers les jeunes de 18 à 20 ans. Là. Pour moi, c'est ce qui devrait être, qui devrait sauter aux yeux de tout le monde. Même le législateur aurait dû faire, ça n'a aucun sens.
Oui, ben, il y a la discrimination, mais il y a aussi le fait qu'on ne répond pas à un des objectifs importants. Justin Trudeau l'a aussi beaucoup dit en campagne électorale, c'était on veut à tout prix que la jeunesse canadienne ne soit pas manipulée par le marché noir du pot. On veut qu'il ne fasse pas les frais, justement, du crime organisé. Or, au Québec, ça change absolument rien pour les jeunes. Là, Jessica, est-ce qu'on ne devrait pas revoir l'âge légal?
Oui, en fait, c'est le point le plus malheureux, je pense, dans les décisions qui ont été prises, parce que l'objectif, un des grands objectifs de la légalisation, c'était enfin de rendre la substance accessible, une substance de qualité, et qu'on peut diminuer les risques, en fait, auprès des consommateurs. Et en fait, les plus concernés, les plus grands consommateurs actifs, c'est justement la tranche d'âge des 17-25 ans environ. Donc, on passe complètement à côté de la plaque sur nos objectifs avec tous les jeunes de moins de 21 ans, qui sont en plus ceux qui ont possiblement une consommation la plus à risque. Donc, oui, il faudrait vraiment revoir cette loi.
Toi, tu le mettrais à quel âge, l'âge légal au Québec, Jessica? Étant donné que les gens pensent qu'on influence le gouvernement Legault, fait que si on pouvait passer un message ce matin, ça serait le fun. Quel âge ça devrait être légal au Québec?
De façon réaliste, en lien avec bon tout ce qui est acceptabilité sociale, ce qui se ferait, étant donné que l'alcool est légal à partir de 18 ans, ça serait déjà plus cohérent, en fait, de le mettre à partir de 18 ans comme pour l'alcool, qui est beaucoup plus risqué, en fait, sur beaucoup d'aspects. Donc, c'est un peu drôle qu'on mette le cannabis à 21 ans, l'alcool sur 18 ans. C'est certain qu'on n'a pas le choix de se doter de lois, c'est des substances qu'il faut contrôler, mais En même temps, on sait que les gens vont les consommer quand même, les jeunes vont les consommer quand même, et on sait que l'interdiction n'empêche pas ceux qui veulent consommer de consommer.
T'as parlé de la comparaison avec l'alcool. Oui. On le fait souvent, ça. Encore ce matin, j'entendais mon collègue Paul Arcand parler avec le président de la SQDC, Jean-François Bergeron, et il y avait cette comparaison avec l'alcool, avec la SAQ. Il disait, nous, on n'est pas la SAQ, finalement. D'ailleurs, on a un extrait fort intéressant là, de l'entrevue de ce matin. Jean-François Bergeron, là, qui est en charge de la SQDC.
Faire du commerce sans promotion, sans placement de produits, dans une perspective de protection de la santé, c'est pas toujours évident. Mais on y arrive à un équilibre jusqu'à présent. Donc, on réussit à offrir du conseil. On parle souvent de l'expérience client, là, et nous, on parle plutôt de l'expérience de l'accompagnement. Si un client rentre chez nous, il passe 2 heures chez nous et qu'il sort sans avoir acheté un produit, là, on a fait notre job.
Eh bien, c'est bien le seul qui est en commerce de détail puis qui veut pas que le monde achète. Je vous avoue, j'entendais ça ce matin, je trouvais que c'était lunaire. Je me dis, coudonc! Je sais pas s'il consomme ses produits, mais il aurait le droit, là. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de jugement, Hugo, par rapport à tout ça. Il se défendait beaucoup, M. Bergeron, finalement, de vendre du cannabis. Mais je veux dire, la SQDC, c'est ça qu'ils font, là. On dirait qu'ils sont comme en de l'arbre et l'Écosse. Ils veulent pas vraiment en vendre, mais ils sont comme obligés d'en vendre. Comment tu vois ça, toi, Hugo?
Mais c'est clair que le modèle actuel est, à mon avis, totalement là, à côté de la traque. Là, je pense que c'est le meilleur terme. C'est-à-dire qu'on transige le cannabis comme si c'était des explosifs. On considère que le cannabis, là, au niveau légal, la façon que les lois sont constituées, ça ressemble aux lois restrictives des feux d'artifice et de l'armement. Donc, ils ont un regard totalement déconnecté de la réalité, c'est-à-dire que le cannabis est une plante verte. Les gens le transigent comme une plante verte. Les gens le vivent comme si c'était des produits maraîchers, parce que ça a une connotation, c'est une plante verte. Donc, le rapport au marché devrait être revu. C'est clair qu'on devrait avoir quelqu'un à la tête de la SQDC, qu'on ait quelqu'un aussi au Québec qui conseille le gouvernement du Québec, qui soit dans une optique ouverte et de changement de paradigme. D'ailleurs, je propose ma candidature, mais tout ça pour dire que le marché devrait avoir une plus grande ouverture. Présentement, là, la seule chose qu'on fait, c'est que oui, on vous en vend à travers la petite fenêtre qu'on a créée au niveau légal, là, mais tout le monde, à part les gens qui ont le droit de transiger dans cette fenêtre-là, c'est-à-dire les producteurs autorisés et la SQDC, tout le reste, c'est dehors, c'est évacué, puis on n'a même pas le droit d'en parler positivement.
Non, c'est ça.
Le cannabis,
ouais.
C'est bon, mm-hmm. On n'a pas le droit. Tu as le droit de dire que le vin, c'est bon. Là, ça, tu as le droit de le dire à tous les jours. Tu as même le droit d'avoir des émissions spéciales. Le samedi, dimanche matin, il y avait déjà eu à TVA la reprise de l'émission Cocktail. Attends une minute. Là. À 10h le matin, il faisait l'émission Cocktail le dimanche matin à 10h à TVA.
Non, mais c'est ça, complètement. Je veux dire, problème. Nous, on en a régulièrement. On a Jessica Arnois, oui. Ici, une collègue qui fait des chroniques vinicoles, oui, qui sont fort appréciées. Puis, puis tout le monde, toute la discussion sur le vin, il y a... C'est bon, puis on met des millions pour dire aux gens buvez, mais buvez responsablement.
Mais ça
c'est autre chose avec le pot. Ouais.
Ça maintient la stigmatisation, ça, à quelque part, parce que c'est comme si c'était encore un peu mal vu. Puis,
voilà.
C'est pas interdit légalement, mais on peut pas en parler, fait que ça doit parce que c'est mal.
Mm-hmm.
Ben,
mm-hmm.
Non, nous, au Bloc Pot, on a toujours dit que c'est l'inverse qu'on doit faire. Oui, il faut parler des risques, mais on doit aussi parler de la joie que ça apporte. Puis le plaisir qu'il y a à consommer du cannabis. Parce que oui, il y a du plaisir, la grande majorité, l'extrême majorité ont du plaisir à consommer du cannabis. Les personnes qui ont des problèmes de consommation avec le cannabis sont vraiment un petit groupe d'individus qu'il faut faire attention, qu'il faut aider en cas
ouais.
de besoin.
Mais il y a toujours quand même la question du cerveau des jeunes, du fait que jusqu'à 25 ans, ton cerveau n'est peut-être pas fini complètement, que fumer des substances qui peuvent altérer tes capacités, c'est un enjeu. Bref, il y a tout ça. On va revenir avec les commentaires de nos auditeurs là-dessus. Je veux vraiment savoir si cette loi qui a légalisé le cannabis a changé quelque chose dans votre vie. Si vous avez des jeunes, des ados, des jeunes adultes, là, des 21 ans et moins, où est-ce qu'ils s'approvisionnent s'ils fument du pot? Un peu tout ça. 514-790-9850. Puis si vous pensez qu'on devrait changer l'âge au Québec, parce qu'on est les seuls avec 21 ans, de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. In time of war, I spoke to joints before. On parle de la légalisation du cannabis au Canada depuis 2 ans. Yann, bonjour. Est-ce que cette loi a changé quelque chose dans votre vie?
Oui, un peu. Moi, j'ai commencé à acheter légalement, mais il y a des bonnes qualités, il y a des bons produits. Ce que je reprocherais à la SQDC un peu, c'est les prix.
Mm-hmm.
Parce que moi, personnellement, j'ai déjà été vendeur dans un passé lointain. Je consomme le soir avant de me coucher. Je consomme pas beaucoup. Je consomme un 15 grammes dans mon mois. Là. C'est juste pour dire, c'est du CBD.
Mm-hmm.
Mais pour mon 15 grammes, je vais à SQDC. Ça me coûte en moyenne 130-135 $. Quand j'ai pas d'argent, je vais voir le dealer au coin de la rue. Pour la même affaire, ça me coûte 70.
Hey, hey, grosse différence quand même. Parce que voyez-vous, ouais, ce que disait Jean-François Bergeron, entre autres, c'est que les prix à la SQDC sont 20% sous la moyenne nationale, puis que c'est à peu près 6,64 $ le gramme. Mais vous, vous me dites que vous payez plutôt 10 $ le gramme, là.
Oui, presque.
Ouais.
Pour avoir les bonnes qualités, il y en a des produits qui sont moins chers, que vous payez 3 grammes pour 20 $.
Mm-hmm.
Mais ces produits-là, c'est les moindres qualités, comme acheter du N39 que personne ne veut dans la rue. Là.
Ah ouais, ouais. C'est quoi, là? Dites-moi, est-ce qu'il y a du bon pot fait au Québec?
Oui, il y a du très bon pot fait au Québec.
Est-ce qu'il y en a à la SQDC en vente?
Oui, il y en a, mais à ce moment-là, c'est ça, c'est qu'on va payer beaucoup plus cher pour le produit. Tandis que dans la rue, on paye pas bien, bien plus cher. Fait que comme si moi aussi, j'étais plus serré, mais j'ai été au coin de la rue.
Ah oui,
c'est la même qualité que je paye à 135 $ au SQDC, mais j'ai payé 70 $, puis c'est le même prix que je payais avant.
Uh-huh.
Ils n'ont pas baissé leur prix pour ça. Là.
Ouais, puis la différence, c'est pas juste les taxes, là. C'est plus que ça. Là.
Non, c'est beaucoup plus que ça.
Ouais. Ben, merci.
C'est la seule chose.
Mmh. Merci beaucoup.
Sans ça, j'irais plus souvent.
Merci, Yann. Merci beaucoup. Steve, bonjour. Steve, vous êtes là?
Oui.
Oui, on vous écoute, Steve. C'est à vous. Sur le cannabis, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie?
Ben oui, parce que moi, j'en revends. Donc, au début, quand les SQDC ont ouvert, j'ai perdu une partie de ma clientèle.
Mm-hmm.
Mais quand ils ont passé la loi sur les 21 ans et plus, ben j'ai récupéré et encore beaucoup plus que ce que j'avais avant. Là.
OK. Donc vous êtes ce qu'on appelle un pocheur finalement, c'est ça?
Oui.
Ouais. Puis la clientèle que vous avez, est-ce que vous diriez qu'elle est surtout composée de jeunes de 21 ans et moins?
Ah, je dirais à peu près 50%.
Ah ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes-là? Est-ce que, de toute façon, ils considèrent que vous seriez de toute façon moins cher que la SQDC, donc c'est plus intéressant pour une question de prix, ou c'est parce qu'ils n'ont juste pas accès?
La plupart, c'est qu'ils n'ont pas accès.
Ah,
ils sont plutôt en colère parce qu'ils n'ont pas accès. Donc,
voilà. Ben, merci. Merci beaucoup, Steve. Michel est avec nous. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour à vous. Bon matin.
On vous écoute?
Donc, moi, ici, ce qui m'a irrité, moi, c'est d'entendre que M. Trudeau aurait légalisé. En fait, M. Trudeau a repris une étude qui a été faite par les sénateurs conservateurs.
Mm-hmm.
Ça, c'était chapeauté avec Mme Lynn Beauchesne de l'Université d'Ottawa.
Mm-hmm.
Et que M. Harper, ne voulant pas s'attirer les foudres politiques, ben, il a mis ça dans les poubelles.
OK. Mais peu importe, là, je veux dire, au point où on en est aujourd'hui, 2 ans plus tard, c'est fait. Moi, ce que j'essaie de discuter ce matin, c'est est-ce que ça a changé quelque chose dans la vie des gens ici au Québec, en particulier des jeunes? Vous en pensez quoi de ça?
Moi, je dirais non, pas nécessairement.
Mm-hmm.
Il y a juste un certain montant, un certain nombre de personnes qui sont problématiques. Ils vont toujours avoir plus ou moins le même nombre de personnes problématiques. Ayant travaillé dans le domaine précédemment, donc il n'y a pas plus ni moins. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer. Il y en a à cause des effets indésirables qui vont cesser.
Mm.
Il y en a d'autres que ça ne les intéresse pas du tout. Et puis c'est ça, donc il y a des gens qui vont faire de l'expérimentation, en fait, là. Et puis des expériences. Et puis ils vont tout simplement, mais non, je vois pas plus. Il y a des.
D'accord. Ben, merci.
Merci. Merci, au revoir.
Merci, Michel. Mélissa, vous êtes une mère. Vous avez des ados, Mélissa, de ce que je comprends?
Oui, bonjour, Isabelle.
Bonjour.
Oui, j'ai 13, 11, 10 et 8. Donc, ils sont à l'aube de l'adolescence, mon grand qui est en secondaire 2.
Mm-hmm.
Puis, on a commencé à discuter là, justement à son entrée au secondaire l'an passé, là, de la possibilité là, de consommer du cannabis, tout ça maintenant. Puis, moi, je...
Oh, c'est intéressant. Donc, vous en avez parlé ouvertement avec lui. C'est lui qui est venu vers vous ou c'est vous qui avez ouvert la discussion?
Non, c'est moi qui ai ouvert la discussion. En fait, je voulais lui faire comprendre, là, en fait, lui faire prendre conscience que ce qu'il vendait là sur le marché noir, on pouvait pas toujours savoir ce qu'il pouvait avoir là-dedans.
Mm-hmm.
Puis qu'éventuellement, c'était certain là qu'il allait avoir la possibilité là de pouvoir en fumer, que quelqu'un un jour il allait lui en proposer. Là, je veux dire, on le sait tous, là, ça arrive à un moment donné. Mais que si quelqu'un lui en offrait puis qu'il avait le goût de l'essayer, ben que je préférais qu'il me le demande. Puis même si moi je sais que j'ai pas le droit d'aller en acheter pour mon ado, là, mais que je préférais aller l'en chercher là pour lui, là, que lui a consomme un peu n'importe quoi là. Mm. Parce qu'on entend toutes sortes d'histoires là de consommation qui rend les jeunes un peu
voilà.
Un peu fous là. Ouais.
Mais donc ce que vous dites, Mélissa, c'est que vous là, vous feriez la queue à la SQDC pour aller acheter du pot pour votre ado pour lui éviter de passer par un pocheur.
Oui, exactement.
Je pense que beaucoup. Bon, moi,
ça me rendrait mal à l'aise dans le sens où moi j'en consomme pas, mais je le ferais. Je le ferais pour lui parce que je vais.
Même si c'est illégal.
Certaine de ce qu'il va consommer là. Ouais, ouais. J'aimerais mieux savoir ce qu'il consomme. Puis bon, ben en allant pour lui, ben je saurais aussi là un peu la consommation qu'il en fait.
Ouais.
Puis tu sais, si je vois que ça devient excessif, ben je pourrais toujours avoir encore une discussion avec lui là à ce sujet-là, puis tu sais, essayer de le sensibiliser parce que tu sais, je veux dire, notre rôle de parent, c'est de guider notre enfant. T'sais, on fait ce qu'on peut, puis bon, on espère toujours le mieux pour eux. Mais à un moment donné, on n'a pas toujours le contrôle sur eux. Donc, je pense que c'est d'être ouvert puis un peu...
Mais je trouve que vous avez la bonne attitude. C'est ça qu'on essaye de faire comme parents. C'est qu'on peut pas interdire, voyons donc. Sinon, dès qu'on a le dos tourné, ils se lâchent l'os. Puis l'idée, c'est effectivement d'expliquer un peu quelles sont les inquiétudes, quel est l'enjeu qui peut exister, surtout quand on est jeune comme ça, qu'on est très jeune. Merci beaucoup, Mélissa. Justement, là-dessus, Jessica Turmel, en conclusion, je voulais quand même... Les risques de passer par un pocheur pour un ado ou quelqu'un qui a 21 ans et moins, considérant aussi le cerveau, les neurones, bon, est-ce qu'ils sont réels, ces risques-là, de tomber sur du stock qui pourrait être coupé avec d'autres choses? Quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce que cette mère, Mélissa, a raison de dire, ben moi, j'aime autant aller en acheter à la SQDC pour mon ado que de le voir aller sur la rue fumer n'importe quoi?
Oui, ben c'est certain qu'elle a une approche de discussion avec son jeune, donc ça favorise beaucoup la communication. Elle risque, s'il y a quelque chose qui va pas bien, il risque de lui en parler.
Mm-hmm.
Donc, on est dans l'éducation ici, donc un accompagnement, donc ça, c'est très bien. C'est certain, bon, que on rappelle qu'il y a des risques reliés à l'usage de cannabis, surtout chez les plus jeunes. Il y a des risques qui sont réels là au niveau du développement du cerveau. Donc, on essaie le plus possible de retarder l'initiation de la première fois. Par contre, on est encore beaucoup, là, je dis ça en rappelant tout de même qu'on est beaucoup dans la dramatisation encore aujourd'hui. Donc, il y a des parents là, qui paniquent en sachant que leur jeune a consommé. Il existe des risques pas négligeables, d'où l'importance d'en parler justement avec les jeunes, d'avoir accès. C'est un peu le problème du marché noir. Ça ne permet pas aux jeunes d'avoir accès à toute l'information pour prendre des choix éclairés. L'information bon, sur les effets, les risques possibles, l'information sur le taux de THC, CBD aussi. C'est une plante qui est quand même complexe, qui peut avoir différents effets selon qu'on joue un peu là, sur le taux de CBD et tout. Et ben s'il arrive des pépins, si la personne a des prédispositions, par exemple des fragilités, ben là c'est là que c'est important d'avoir un réseau soutenant.
Mais est-ce que tu t'inquiéterais aujourd'hui de savoir par exemple qu'un jeune de 18 ans ou 19 ans, donc qui serait à la rigueur légale en Ontario là à 19 ans. Bon, est-ce que tu t'inquiéterais que ce jeune-là au Québec fume, mettons, un joint tous les jours pour se calmer en ce moment parce qu'il est anxieux à cause de la pandémie?
Oui, ben en fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est certain que quand on est dans la consommation pour gérer des émotions, le stress par rapport à la pandémie, par exemple, mais c'est sûr que ça peut emmener à gérer toujours ses émotions par la consommation, ça peut emmener à des risques de dépendance.
Ouais.
Ça, c'est certain. Il y a toutes sortes de risques qui sont à prendre en compte, mais on sait que les jeunes vont tout de même faire l'expérimentation, tout de même l'essayer. Puis, pour revenir sur la question de la qualité aussi des produits sur le marché noir, comparativement à l'achat à la SQDC, par exemple, on peut retrouver différentes substances des mauvaises qualités, si on veut, là, dans les substances qui sont vendues illégalement.
Ouais.
Le cannabis, on est chanceux, ben, jusqu'à maintenant, étant donné que c'est une plante, on n'est pas la crise des opioïdes, là, comme on la vit en ce moment, qui touche les produits de synthèse plus, avec moins le cannabis. Donc, il y a moins de risques que d'autres substances synthétiques.
Okay.
Mais il y a tout de même un risque. Puis c'est surtout au niveau du taux, comme je disais, là, de THC. Parfois, on peut avoir une batch qui est très, très forte. Une autre fois, une qualité qui est différente. Donc, il y a tous ces éléments-là aussi qui vont influencer.
Merci beaucoup, Jessica Turmel, qui est psychoéducatrice chargée de projet pour l'Association des intervenants en dépendance du Québec, spécialiste en toxicomanie. Hugo Saint-Onge, chef sortant du Bloc Pot, très rapidement. Conclusion, Hugo?
Écoute, moi, je prendrais le temps de dire une chose sur les jeunes. Là. Le plus grand risque dans le marché noir, c'est que les personnes qui vendent dans le marché noir ont souvent d'autres produits synthétiques beaucoup plus dangereux.
Ouais.
Et comme on a vu à Saint-Jean-sur-Richelieu, et j'ai oublié l'autre place, où il y a deux jeunes qui sont décédés d'une surdose probablement de fentanyl. Donc, c'est plus là qu'est l'enjeu. Si le cannabis était réellement dangereux pour les jeunes, là, ben on n'aurait pas autant de diplômés à l'université, on aurait un hécatombe chez les jeunes, hein, s'il y a tant de jeunes qui en consomment, et ce n'est pas le cas. Mmh. D'ailleurs, les jeunes, même si c'est eux qui consomment le plus souvent, ils l'expérimentent, ils ne sont pas de gros consommateurs. Les gros consommateurs, c'est du monde qui ont en haut de 25 ans la plupart du temps. Et je terminerai que parce du cannabis réglementé, ça ne veut pas dire que c'est du cannabis de qualité. On a juste à aller à l'épicerie puis voir toute la nourriture industrielle conforme aux règles de Santé Canada puis que c'est de la poubelle finalement. Mmh. Donc, faut faire attention, ce n'est pas vrai que parce que c'est réglementé par Santé Canada que c'est de qualité.
Ben merci beaucoup Hugo Saint-Onge et puis j'encourage tout le monde à avoir si vous avez des jeunes à la maison à avoir ce genre de discussion comme Mélissa avec ses jeunes ados parce que c'est vrai que c'est important d'en parler avec nos jeunes de laisser le canal de communication ouvert. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je reçois le créateur d'Illumi. Vous avez peut-être été au Parcours Illuminé l'année dernière. Cette année, en temps de pandémie, il y avait de grandes inquiétudes que ça puisse pas s'ouvrir, mais heureusement. Et j'ai assisté à la première hier. C'était vraiment un spectacle magnifique. On s'en parle tout de suite après. Puis je vais vous demander, on était tellement contents de pouvoir sortir, les amis, là, de faire quelque chose. On était tout excités. On y est allés en famille avec les filles. Tout le monde a apprécié. Et je vous encourage à aller voir ça. On en parle avec Normand Latourelle tout de suite après. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high.